Bonjour à toutes et à tous. Donc, veuillez nous excuser pour ce petit retard et malentendu. Donc, ça me renvoie à une conférence qu'on a eue il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Attention, ne croyez pas, prenez pas pour argent comptant sur ce qu'il y a sur les réseaux. Donc, quand c'est écrit 15h30, ça veut pas dire... il faut toujours revenir à la source. Et la source, c'est le programme de la Galerie Eureka. Voilà. Bon, ça, c'était pour la blague. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir et d'accueillir nos intervenantes pour cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition Super Ego, qui traite de l'égalité femmes-hommes, que je vous invite à aller voir à l'issue de la conférence si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Elle s'adresse à tous les publics, mais orientée surtout quand même pour les plus jeunes. Et on ne fait pas notre publicité, mais elle est vraiment bien faite. C'est le CCSTI, je parle sous ton couvert, de Vitry-sur-Seine, qui s'appelle Exploradome. Et voilà, donc c'est notre homologue de la région parisienne. Et voilà, donc ils ont fait un formidable travail. Et voilà, donc je me permets de le saluer et de vous inviter à la découvrir. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais passer le micro à Lauranne Jacob, qui va animer cette table ronde. Je vais te laisser. Donc, Lauranne, en un mot, elle est manager de projet de culture scientifique à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et elle a également une seconde casquette. Elle est membre de l'association internationale Lean in Network. Vous pardonnerez l'accent. Je te laisserai présenter un petit peu plus l'association. Et surtout, je vais te laisser la lourde responsabilité d'animer cette table ronde et de présenter nos deux invités. En tout cas, merci et bonne table ronde.
Merci Jean-Yves. Donc je m'excuse, c'est moi qui ai fait l'erreur sur les réseaux sociaux. Donc c'était bien 15h et pas 15h30. Et j'espère être à la hauteur de Jean-Yves qui me laisse le micro cette fois-ci. Donc deux mots sur le Leaning Network des Savoies. Le Leaning, déjà, c'est une fondation internationale qui promeut les femmes et le leadership des femmes en particulier. Donc si vous avez envie de savoir qui on est et ce qu'on y fait, les membres de l'association ont un badge rouge et je vous inviterai à la fin de cette table ronde à venir nous voir et on vous expliquera nos activités en Savoie. Alors, sans transition, je vais commencer par vous présenter. Alors, tout d'abord, Clémentine Brie est maîtresse de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Voilà, elle est en blanc. Elle enseigne en STAPS. STAPS, pour faire simple, c'est le sport à l'université. Et elle fait ses recherches dans un laboratoire de psychologie sociale. Ses travaux portent sur le sexisme, les stéréotypes et la perception de soi. Marie, donc à sa droite, Marie Prévost est docteur en neurosciences. Elle est présidente et fondatrice de la Fabrique à neurones, qui est un centre de neurosciences appliquées dont la mission est de contribuer à l'équilibre entre le bien-être et la performance grâce à une meilleure compréhension du cerveau. C'est bien ça ? Très bien. Et donc toutes les deux, elles vont nous aider à répondre à la question qu'on s'est posée. Que disent les neurosciences et la psychologie sociale de l'égalité femmes-hommes ? Alors, la première grande question, elle va être pour Marie. Est-ce qu'il y a des différences entre le cerveau masculin, féminin ? Est-ce qu'il y en a un qui fonctionne plus vite ? Est-ce qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre ? Des questions un peu basiques, mais qu'on se pose tous.
Donc oui, et les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes. Donc ça, c'est une statistique qu'on retrouve un peu partout, un peu comme la moyenne de la taille des femmes est plus petite que la moyenne de la taille des hommes. Et en préparant ça, Clémentine m'a fait remarquer que ce n'était vrai que si on prenait énormément de femmes et d'hommes, on remarque cette différence de moyenne. Mais si je prends les gens dans la salle, il y a des chances qu'il n'y ait aucune différence, voire que les femmes sont plus grandes que les hommes, tellement c'est tout petit en fait. Et la variabilité d'un individu à l'autre est beaucoup plus forte. Donc oui, pour le cerveau, il y a bien ça. Je pense que la question qu'on se pose tout de suite derrière, c'est est-ce que ça a un rapport fonctionnel ? Est-ce que du coup les femmes fonctionnent différemment que les hommes parce qu'elles ont un cerveau plus petit ? Non. Donc en fait, la taille ne prédit pas du tout les compétences cognitives, le QI, les compétences émotionnelles, toutes ces choses-là. Donc c'est pas lié du tout à quelque chose de l'ordre de la performance ou des compétences dans le quotidien. Par contre, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est juste plutôt anatomique, elles ont un cerveau plus complexe, c'est-à-dire que les connexions entre les réseaux, entre les neurones, sont un peu plus fouillies, un peu plus chargées que chez les hommes. Donc on ne tire pas de conclusion hâtive, on aimerait bien se dire « Ah, ça paraît logique ». Non, en fait, ce n'est pas forcément lié non plus à quelque chose de fonctionnel. C'est des choses qu'on observe. Et la question qu'on va se poser derrière, c'est de se dire « Bon, bah, puisqu'il y a ces différences-là, est-ce que c'est des différences un peu de naissance ? On est né avec ces différences-là ou est-ce que c'est des différences acquises ? C'est-à-dire qu'en se développant dans une culture, les femmes ont un cerveau qui se développe plus de telle façon, de telle façon ? Pour la taille du cerveau, il y a des chances que ce soit plutôt inné, c'est-à-dire un peu comme notre taille est codée dans nos gènes. Et puis après, si on est bien nourri, qu'on mange bien, on pourra aller à son plein développement de taille jusqu'à un maximum. On ne peut pas faire mieux. Par contre, pour la complexité, peut-être comme c'est quelque chose de l'ordre des connexions qui se créent, et ça, on sait que c'est une question d'environnement, dès le fœtus dans le ventre de la maman, ces connexions qui se créent, qui se développent, ces neurones qui se connectent les uns avec les autres, peut changer en fonction de l'environnement autour de nous. Donc il se peut que ça, ce soit quelque chose qui soit un peu plus lié à notre culture, à notre environnement, à notre éducation. Mais si je rentre un petit peu en recherche, comment est-ce qu'on fait pour montrer ça, ben c'est quand même un peu compliqué de suivre un fœtus ou un bébé. On n'est pas obligé d'aller sur le fœtus et d'avoir quelque chose jusqu'à ses 80 ans pour voir à quel point il y a une différence qui se construit. Et puis il faudrait avoir des cultures différentes, une société plus matriarcale, une société plus patriarcale pour pouvoir les comparer. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de publi là-dessus. Je ne sais pas si on l'abordera, mais pour des raisons de pourquoi étudier cette question ? À quoi ça sert de se poser cette question ? Et quand on a préparé, on s'est un peu posé la question de mais pourquoi est-ce qu'on ira regarder s'il y a des différences entre les hommes et les femmes dans le cerveau ? Voilà, pour l'intellect, pour la curiosité, mais sinon vraiment... Et les financements là-dessus sont effectivement assez pauvres. Il n'y a pas beaucoup de financements. Et une vraie bonne raison, c'est que jusque dans les années 70, c'était que des hommes, beaucoup, qui étaient testés, interviewés, regardés en recherche. Du coup, toutes les données qu'on a sont assez masculines, très peu féminines, alors qu'il y a des différences de prévalence, du nombre de femmes qui vont être malades versus le nombre d'hommes dans certaines maladies, Alzheimer, l'autisme. Donc ça vaut le coup, en fait, de pouvoir avoir plus de femmes tester et observer et de mettre ça comme une variable, non pas comme mon sujet de recherche, c'est voir la différence homme-femme, mais c'est une variable qui vaut le coup d'inclure comme l'âge, comme tout un tas de caractéristiques pour prendre ça en compte dans les traitements, dans ce qu'on peut faire. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Comme c'est une table ronde, je ne sais pas si j'ai rebondi ou si je continue.
Je vais peut-être rebondir. Donc tu nous dis qu'il y a des différences à la naissance, mais qu'elles sont finalement infimes. Ouais. On pense tout de suite aux hormones. Est-ce que les hormones influent là-dessus ? Oui. À la naissance ?
Oui. Alors, à la naissance, non, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vrai qu'on est, des petits humains, plus que des petits hommes-femmes. Et c'est vrai qu'à la puberté, on va avoir effectivement un gros...
Ça, on y reviendra plus tard.
Grosse différence, ouais. Voilà. Mais à la naissance, il n'y a pas de différence homme-femme. Et puis, ce que je proposais peut-être sur celui d'après, qui allait bien avec, merci. La technologie, ouais. Je ressemble à ma mère à un moment, tu sais. Bref. Donc, c'était de dire que, en fait, il y a plus de différence entre les individus qu'entre les hommes et les femmes, au final. Là, c'est un schéma qui montre que si on prend les deux régions du cerveau qui sont montrées comme étant les plus différentes entre les hommes et les femmes, donc on a pris vraiment toutes les chances de voir des différences, parce qu'on a pris ces deux régions qui étaient assez différentes, donc l'hippocampe et le noyau codé gauche. L'hippocampe, c'est la mémorisation, mémoire spatiale, le passage de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Noyau codé gauche, c'est un noyau très ancré. J'avoue, je me souviens plus ce qu'il fait. Je suis désolée, j'ai mal révisé. La grande majorité des hommes et des femmes vont être similaires, en fait. C'est-à-dire qu'on voit quand même du 33% à la marge de différence, mais globalement, on est très, très, très similaires. Et ça, c'est en regardant les zones qui sont les plus différentes entre nous, entre hommes et femmes. Donc, c'est peut-être pas le cœur de ce qu'on devrait étudier le plus. Par contre, en le gardant en variable pour voir s'il y a une différence. Dans l'autisme, on regarde beaucoup ce qui se passe dans le cerveau pour essayer de comprendre, pour essayer de voir s'il y a des zones de traitement. Donc ça dépend où on est dans l'autisme. Ça peut avoir un petit peu de sens, mais sinon, ça va pas être extrêmement, extrêmement révélateur, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire, que j'ai oublié tout à l'heure.
Très bien, merci. Donc, conclusion, il n'y a pas tellement de différence anatomique ou dans le fonctionnement physiologique. Donc si c'est pas de ce côté-là, il faut aller regarder du côté de l'acquis, et tu l'as déjà dit, et donc là c'est Clémentine qui va nous aider à répondre. À quel moment il y a une différence entre les genres qui se créent? On pense à l'enfance, évidemment.
Alors, effectivement, je voulais vous montrer cette diapo-là. Juste pour vous pour reprendre en fait ce que disait Marie par rapport à la taille, où en fait vous voyez donc en rose, c'est les femmes, et en bleu ce sont les hommes, c'est la différence de hauteur. Et en fait on voit que la taille des faits, elle existe, il y a bien une différence de taille entre les hommes et les femmes, sauf que pour la majorité de la population, en réalité il y a un recouvrement énorme. Donc même ces différences-là qui sont physiologiques et qu'on observe, elles sont statistiquement assez ténues. Voilà. Et du coup, quand on regarde les performances, la différence de performance entre hommes et femmes en maths, la différence, elle devient pratiquement ridicule parce que les deux courbes se superposent complètement. Donc oui, on va dire qu'on peut supposer qu'il peut y avoir des différences entre les hommes et les femmes, par exemple sur la performance en maths, puisque c'est ce qu'on observe, par exemple, dans les résultats PISA. Sauf que la taille des faits, c'est-à-dire de la force de cette différence, elle est très faible. Donc du coup, si ce n'est pas une différence qui est liée à la différence du cerveau, est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses? Alors j'ai prévu plein de diapos, elles sont toutes dans le désordre, donc je vais naviguer, je suis navrée. On reviendra peut-être là-dessus plus tard. Du coup, tu voulais... voilà.
L'enfance.
Sur l'enfance, en fait, il y a plein de processus qui vont amener à différencier les hommes et les femmes. Il y a des processus cognitifs qui sont liés au fait qu'on a besoin en fait de partitionner la réalité, on a besoin de la simplifier. Donc on a besoin de faire des catégories, on a besoin de voir qu'il y a des hommes, des femmes, qu'il y a des gentils, qu'il y a des méchants. Donc ça, c'est les processus cognitifs qui sont de base. Et on fonctionne comme ça. Donc en fait, on va nécessairement utiliser ces processus-là. Et on va être encouragé à les utiliser au fur et à mesure qu'on est élevé, etc., puisque c'est aussi la façon dont nos parents vont nous élever. Ensuite, il y a tout ce qui est apprentissage social, imitation, renforcement. C'est-à-dire qu'on a des exemples, les gens se comportent de cette façon-là et on observe des règles, on observe des régularités et on va en déduire du coup la loi qui est que les femmes se comportent de cette façon-là, les hommes se comportent de cette façon-là. Et on voit aussi qu'il y a des renforcements. Si moi je me comporte comme ma maman, parce que je suis une fille, je suis renforcée positivement, c'est-à-dire que je suis récompensée. On va me faire des compliments et on ne va pas me gronder. Si je suis un petit garçon et que je me comporte par contre comme une fille, à ce moment-là, je ne vais pas être récompensée, je ne vais pas avoir plutôt d'évaluation positive, voire je peux être évaluée négativement. Donc il y a ces aspects-là. Les aspects d'identification, de la construction aussi du soi, on en reparlera peut-être plus tard. Tout ce qui est socialisation, tous les processus culturels, en fait, dans lesquels on va entrer un peu dans le détail. Et après, il y a des fonctions motivationnelles. Je vais passer très rapidement dessus. L'idée, c'est que on va donc du coup partitionner la réalité et on va s'identifier à un certain groupe, à une certaine catégorie sociale. Et en fait, on a besoin que cette catégorie sociale, elle soit perçue positivement. On a besoin que nous, notre groupe, soit perçu positivement. Et du coup, pour se percevoir positivement, il faut se comparer, il faut se différencier des autres catégories. Et cette différenciation, elle se fait nécessairement dans « je suis meilleur » et « l'autre est moins bien ». D'accord ? Et cette fonction motivationnelle, du coup, fait que... pour les hommes et les femmes, on va supposer une complémentarité. On va supposer qu'il y a des différences, qu'il y a un groupe qui a certaines caractéristiques, que l'autre groupe a d'autres caractéristiques, sauf qu'il y a de toute façon y avoir cette hiérarchisation qui va se faire. Okay. Voilà pour ça. Donc, la socialisation, donc l'apprentissage social, l'imitation, tout ce qui est identification et renforcement, ça je vous en ai parlé. Et puis, voilà, ces renforcements, ils sont souvent implicites. Ça peut être l'absence de commentaires positifs, ça peut être des renforcements explicites, donc des punitions. Et tout ça, ça va nous amener, en fait, vers certains types de comportements. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que on voit, en fait, ces différences de comportement, par exemple, dans l'utilisation des espaces dans les cours de récréation, où on voit que les garçons vont exploiter beaucoup le centre de la cour où ils vont beaucoup avoir de jeux, de ballons, etc. Et que les filles vont graviter autour de ça et elles vont du coup être repoussées vers les, vers les côtés et avoir des activités plutôt de discussion, donc plutôt de langage, alors que les garçons vont avoir des activités plutôt sportives, motrices. On retrouve cette différenciation dans l'utilisation de l'espace public. On en reparlera plus tard. Voilà. Donc, en fait, cette différence, cette modification du cerveau qui va amener potentiellement à un cerveau féminin et à un cerveau masculin, elle est liée en partie aux activités qu'on propose aux enfants. Donc notamment aux jeux qu'on peut leur proposer, à savoir que bon, ça c'est assez classique, le fait qu'il y a des jeux qui sont stéréotypiquement masculins et des jeux qui sont stéréotypiquement féminins. Mais il y a des choses qui sont un petit peu plus subtiles, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus facilement envoyer un garçon jouer dehors. Il a besoin de se dépenser, allez, sors, tu prends un ballon, tu prends un vélo, tu sors, tu vas dans la rue, tu fais ce que tu veux, mais sors et surtout, tu vas te... Comment dire ? Merci, te défouler. Alors que les filles, on va moins facilement les envoyer dehors. On va beaucoup plus souvent les encourager à rester à l'intérieur, d'avoir des jeux qui sont des jeux de langage, des jeux d'interaction, des jeux d'expression des émotions. Donc voilà.
Et à quel âge, en fait, un enfant prend conscience de son genre ? Est-ce que c'est dès la maternelle ? Est-ce que c'est plutôt en primaire ? Tu nous as montré les cours de récré, oui. Et là, c'était plutôt du primaire.
Alors, je vais passer le diapo pour trouver. Voilà. Alors, en fait, entre 3 et 5 ans, donc on est là, entre 3 et 5 ans, l'enfant commence à identifier assez clairement son genre. Je suis une fille, je suis un garçon. Sauf que ça va se faire de façon où, en fait, c'est pas forcément anatomique, c'est pas forcément relié à l'anatomie, c'est pas forcément quelque chose de stable, c'est pas forcément quelque chose qui est je suis une fille, je serai toujours une fille. Ça peut changer. Si j'ai les cheveux courts, est-ce que c'est vraiment une fille, cette personne ? Si c'est un garçon aux cheveux longs, est-ce que c'est vraiment un garçon ? Donc vers 4-5 ans, il commence à avoir une stabilité, où il commence à comprendre que ce sexe, ce genre, ne changera pas. À partir de 5-6 ans, il commence à y avoir cette préférence pour son propre groupe. Donc jusqu'à 5-6 ans, en fait, on voit que les enfants en maternelle jouent assez facilement avec l'autre sexe. Et par contre, à partir de la fin de maternelle, début de primaire, là, il va y avoir la ségrégation qui va se produire. Donc les filles préfèrent les filles, les garçons préfèrent les garçons, et surtout, on commence à ne plus jouer ensemble. Vers 6-7 ans, il y a une constance du genre. Donc là, ils ont compris que c'est pas parce qu'on se coupe les cheveux qu'on devient un garçon.
Ouais. Est-ce que ça s'est renforcé aussi par les jeux qu'on leur propose ?
Alors oui, c'est renforcé par les jeux qu'on leur propose. Sachant qu'ils ont, en fait, ils ont besoin aussi, à un moment donné, de se construire au travers de ça. Alors, mais avant ça, en fait, on va quand même rester sur l'enfance. Ils ont besoin de construire ce genre. Ils ont besoin de comprendre qu'ils font partie d'un groupe et pas de l'autre, et que l'autre personne fait partie de l'autre groupe. Donc du coup, ils ont besoin d'aller vers cette ségrégation, et ils ont besoin de s'approprier aussi les codes de leur groupe social. Donc oui, les jouets, les jeux qu'on leur propose, ça va renforcer ça, sachant qu'ils sont aussi demandeurs. Donc le truc, c'est qu'ils vont naturellement, de toute façon, aller vers des comportements stéréotypiques dans le but de la construction du soi. Du coup, c'est peut-être pas la peine de pousser. On n'a peut-être pas besoin d'aller dans ce sens-là. Au contraire, on peut proposer des choses qui sont alternatives parce que eux, de toute façon, vont pousser dans ce sens-là. Et toutes les petites filles et toutes les mamans qui essayent d'élever leurs enfants de façon non sexiste sont... Quand la petite fille demande du rose, on est là, non, s'il te plaît, non, pas du rose. Ben si, ils veulent du rose, ben, c'est comme ça.
Est-ce que tu as fait un petit peu le tour de la question ?
Un petit peu. On est sur les petits, donc je reste. On verra après l'adolescence, peut-être.
Eh ben, on peut passer à l'adolescence. S'il y a bien un moment, justement, où les hormones titillent, tout à l'heure, on a un tout petit peu évoqué les hormones, eh ben, c'est bien l'adolescence. Et là, je me retourne vers Marie. Qu'est-ce qu'elles produisent, en fait, sur le corps ? Quels sont les effets sur le cerveau et sur le corps ?
Classiquement, je pense que c'est assez, on l'a tous fait en biologie, peut-être si on est allé jusqu'au lycée. Donc vraiment à la puberté, il y a grosse explosion d'œstrogènes chez les femmes, testostérone chez les hommes, et les marqueurs sexuels secondaires, donc avoir des seins, la pilosité, ces choses-là pour les femmes, pour les hommes. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est vraiment un continuum. Avoir un sexe féminin, avoir un sexe masculin, c'est à la naissance. Ça dépend pas. Ça dépend un peu des hormones dans le développement du fœtus. C'est-à-dire qu'on peut changer le développement sexuel de quelqu'un en lui injectant pendant son développement fœtal une grosse dose d'hormones. Mais dans le développement naturel, en fait, ça se fait parce que nos gènes vont sécréter ces hormones. Et arriver à la puberté, on va voir en fait ces différences qui s'expriment fortement à cause de ces sécrétions d'œstrogènes et de testostérone. Mais encore une fois, en fait, il y a un vrai continuum dans la population. Il y a des femmes beaucoup plus poilues que les hommes. Il y a des hommes qui ont des seins. Il y a vraiment un continuum, quoi. C'est pas vraiment... si on prend au hasard, qu'on compte le nombre de poils d'un homme, d'une femme, et qu'on essaye de déterminer avec ça si c'est un homme ou une femme, on sera pas sûr de bien tomber. Vaut mieux se fixer sur les appareils génitaux, par exemple, qui sont plus visibles. Alors, vous me direz, pour les seins, quand même... Il y a quand même une vraie différence. Peut-être, mais il y a un continuum. Il y a un vrai continuum. Ce n'est pas aussi marqué en deux catégories que ça. Et après, pour se reposer la question du cerveau, du coup, est-ce qu'il y a des différences à ce moment-là qui vont être produites? Un peu, c'est-à-dire que l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont le couple de glandes dans le cerveau qui produisent les hormones, l'hypothalamus donne l'ordre à l'hypophyse d'aller sécréter des hormones pour que dans mon corps, il se passe des choses. Cet hypothalamus se différencie un peu différemment, c'est-à-dire qu'à force d'avoir plus d'œstrogène d'un côté, plus de testostérone de l'autre, il est un tout petit peu différent. Mais encore une fois, c'est vraiment uniquement, enfin, a priori, ce n'est uniquement que pour soutenir les fonctions féminines, reproduction, ce chose-là, et les fonctions masculines, plus que quelque chose de l'ordre de mes capacités intellectuelles, compétences, cognitives, émotionnelles et autres. Après, c'est vrai que dans la littérature, on voit des différentes statistiques, les femmes auraient plus de succès dans certains tests d'empathie ou de tests sociaux, les hommes auraient plus de succès dans certains tests de rotation mentale, des choses comme ça, mais ça n'a pas l'air d'être si marquant. Par exemple, si on prend le domaine général de la réussite aux mathématiques, qui est une des sous-parties, c'est la rotation des objets dans l'espace, eh ben, on retrouve très peu de différence, en fait. Les deux genres, si jamais il y a une différence, compense largement par plein d'autres choses. Donc c'est pas tellement significatif et pas tellement visible que ça. Et je pense que les œstrogènes et la testostérone ont là un nouvel intérêt qui est dans l'autisme, par exemple. Il y a une grosse théorie de la testostérone qui influencerait peut-être le développement de la maladie ou du trouble. Je vais pas mettre les pieds dans un débat, mais en tout cas, pour les personnes qui souffrent de l'autisme, quand on en souffre, il y a effectivement peut-être le rôle de la testostérone qui serait fortement impliqué. Donc ça, c'est intéressant à regarder et à comprendre, parce qu'il y a une plus grosse occurrence chez les hommes que chez les femmes. Donc il y a quelque chose à regarder là-dedans. Mais si on veut regarder... Pour préparer aujourd'hui, j'ai fait la littérature un peu sur les œstrogènes comme neurotransmetteurs, donc dans le cerveau en tant que molécule qui agit sur d'autres aires cérébrales. Et il y a plutôt des articles d'opinion et de perspective que d'articles fondamentaux qui vont vraiment aller montrer que les œstrogènes agissent comme neurotransmetteurs. Donc c'est pas un champ si développé et si creusé que ça, peut-être pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, que... il faut des financements pour mener ce genre de recherche. Et quel est l'objectif final de savoir ça? Quand c'est pour soigner des maladies, ça a de l'intérêt, mais sinon, du coup, c'est plus difficile, je pense, d'aller creuser ces questions. Donc, a priori, pas de grosses différences au niveau du cerveau, des grosses différences, clairement, pour assurer les fonctions de reproduction, par exemple, de l'homme et de la femme. Ça, oui, à la puberté, on l'a tous vécu, on le vit, et là, c'est vrai, c'est pas un stéréotype, c'est la réalité. Voilà.
Mais tu as dit le mot stéréotype, on va passer à cette partie stéréotype.
Transition.
Transition, ouais. Donc j'ai deux couleurs, vous voyez venir. J'ai un tableau blanc derrière, et ben on va jouer. Alors je vais vous demander de me donner des caractéristiques que vous jugez féminines, donc je les inscrirai en rouge. Masculines, je les inscrirai en bleu. Donc ça peut être des caractéristiques physiques, de comportement, de valeurs, de compétences aussi. Et puis on essaiera après de démêler ce qui est de l'ordre du stéréotype ou pas. Allez, qui se lance ? Ah oui, on y va à fond.
Allez-y à fond. Hein.
Il faut le remplir, ce tableau.
Empathie, oui. En bleu, c'est quoi? Ouais. Oui, oui.
Scientifique pour les hommes.
Faire le ménage, cuisiner.
Scientifique.
Ouais, ça, c'est presque l'ordre du préjugé. Ouais. En fait, ça, c'est presque de l'ordre du préjugé. Donc, du coup, on quitte les stéréotypes pour rentrer dans l'aspect affectif qui sont les préjugés, qui sont la déclinaison des stéréotypes, en fait. Hein. Donc, bah, je peux peut-être en profiter, du coup, pour en parler. Donc, en fait, il y a trois composantes. Il y a la composante cognitive descriptive qui sont donc les stéréotypes. Donc les stéréotypes, ce sont des croyances culturellement partagées qui, sur les valeurs, sur les caractéristiques, sur les compétences, sur la personnalité des membres d'un groupe social. Et de ces stéréotypes, du coup, découle quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif, c'est j'aime, j'aime pas, donc de l'ordre du préjugé. Donc bah, on peut apprécier les femmes parce qu'elles sont douces, elles sont empathiques, elles sont sensibles. On peut apprécier les hommes parce qu'ils ont une force mentale, qu'ils ont une force musculaire, confiance en eux, qu'ils sont sûrs d'eux, qu'ils peuvent réparer des trucs. Voilà. Mais on peut aussi avoir des préjugés négatifs. Elles sont bavardes, elles sont hystériques, c'est des traînées. Versus, ils sont ils sont agressifs, ils sont violents, etc., etc. D'accord. Donc ça, c'est l'aspect du coup préjugé. Et puis des préjugés de j'aime pas découle la discrimination, donc l'aspect comportemental. Ok. Donc ça, c'est vraiment la triade en fait de ce qu'on appelle les attitudes. Donc la cognition, tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est comportemental. Et quand on parle des stéréotypes, en fait, c'est vraiment l'aspect descriptif, l'aspect cognitif. Duquel découlent les préjugés et la discrimination.
Et ces stéréotypes sont-ils quand même fondés sur quelques petites choses scientifiques? Est-ce qu'il y en a qui seraient plutôt vrais ou pas?
C'est compliqué. C'est simple et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en réalité, oui, si on observe les choses, si on observe les comportements des gens, oui. Souvent, les femmes correspondent à cette description-là. Et oui, les hommes correspondent souvent à cette description-là. La question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils correspondent à ça? Et donc, je vous ai parlé de la socialisation. Du coup, je reviens un peu en arrière, mais voilà. Je vous ai parlé de la socialisation. Il y a d'autres... tous ces processus-là font qu'en fait, on est encouragé à aller vers ces comportements-là. On a plus à gagner à être stéréotypique qu'à être contre-stéréotypique. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les choses changent, mais jusqu'à aujourd'hui, on a plutôt... Voilà, c'est plus facile d'être dans ce moule-là que d'être dans un autre moule. Donc pourquoi est-ce qu'en revanche, on a développé ces comportements-là? Ben, ça va être justement cette division en fait, c'est un cercle vicieux. Ou vertueux, si on préfère, si on pense qu'il est vertueux. Mais l'idée, c'est que du coup, on observe que les hommes et les femmes sont différents, que l'on observe quand on est enfant, que les hommes et les femmes ont des comportements différents, qu'ils ont des rôles professionnels, des rôles sociaux différents. Ce qui fait que, bah, on va développer des croyances comme quoi, oui, effectivement, ils ont ces différences-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui cherchent à démontrer qu'il y a une différence physiologique, une différence cérébrale entre les hommes et les femmes. Ces croyances... Du coup, elle nous concerne nous aussi. C'est-à-dire que moi, je crois, enfin, on peut croire que soi-même, on est différent de l'autre genre. Donc, du coup, on va faire des choix qui vont être aussi orientés par ces croyances. Je suis une femme, donc je devrais plutôt avoir un métier qui correspond aux femmes. Moi, je suis censée être une femme, donc je suis censée être douce, maternelle. Je devrais plutôt faire un métier lié aux soins, lié au fait de prendre soin d'autrui, plutôt infirmière. Aide maternelle, des choses comme ça. Donc, je vais du coup aller plutôt vers ces métiers-là. Donc, je vais renforcer, En fait, ça va juste découler tout simplement de ces croyances. Je vais aller plutôt dans ce sens-là, donc faire des choix de carrière qui sont stéréotypiques. Du coup, on va retrouver dans la société une société qui est effectivement organisée de façon genrée. On va vraiment avoir... Il y a très peu de métiers, en fait, qui sont mixtes. Il y a 17... je crois qu'il n'y a que 17% des métiers dans lesquels il y a autant d'hommes que de femmes, ou entre 40 et 60%, en fait, c'est là où on dit qu'ils sont mixtes, c'est qu'il y a entre 40 et 60% de chevauchement, en fait, des sexes. Tous les autres métiers, c'est genré. D'accord ? Donc, il y a plus de femmes dans certains métiers, et il y a plus d'hommes dans les autres, et il y a très peu de métiers dans lesquels on retrouve les deux genres. Donc, il y a une réalité qui est l'organisation genre et notre société. Mais du coup, on observe qu'il y a des différences, puisque les gens ne font pas le même métier. Et du coup, on renforce l'observation des comportements différents, des croyances, etc. Donc, c'est vraiment cette idée de... Voilà. Ça, donc, est-ce que les stéréotypes sont vrais ? Si on regarde la réalité sociale, oui. Est-ce qu'ils sont vrais physiologiquement ? Est-ce qu'ils sont dus à des choses qui sont de l'ordre de l'inné ? Ça se discute. Donc, l'idée, c'est que, en fait, cette réalité sociale, elle est liée, elle se renforce d'elle-même. Donc, elle s'alimente et on tourne en rond.
C'est justement, Olinine, on essaie de plus tourner en rond et de promouvoir les femmes et de l'égalité. Donc, tout à l'heure, on parlait des compétences. Physiologiquement, les hommes et les femmes ont les mêmes capacités, les mêmes compétences, ça veut dire qu'on devrait retrouver possiblement autant de femmes que d'hommes dans certains types de métiers lorsqu'elles ont fait les mêmes études, puisque un diplôme sanctionne des compétences, et ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, tu parlais des mathématiques, et les mathématiques... Il y a beaucoup d'études qui montrent que, en fonction de la façon dont on présente un exercice de mathématiques à une petite fille ou un petit garçon, ils ne vont pas le réussir de la même façon. Est-ce que tu peux réagir ?
Oui. Donc en fait, très très jeunes, les enfants vont avoir connaissance des stéréotypes. Et donc très très petits, ils savent que les filles... Elles sont censées être moins bonnes en mathématiques que les garçons. Elles sont censées être moins fortes dans tout ce qui est visualisation spatiale. Alors évidemment, ils ne peuvent pas le formuler de cette façon-là. Mais en tout cas, il y a une conscience qu'on perçoit dans la société qu'il y a quand même des différences entre les hommes et les femmes et qu'ils ne sont pas égaux par rapport aux maths, etc. Et il y a eu des recherches qui ont montré que si on demande à des enfants de faire un test de géométrie, de faire de la géométrie, les petites filles vont moins bien réussir que les garçons. En revanche, si on présente exactement le même exercice comme étant du dessin, il n'y a plus de différence entre les petites filles et les petits garçons. D'accord ? Donc c'est cette idée de menace du stéréotype. Tu veux que j'embraye tout de suite dessus ou pas ? Cette idée de menace du stéréotype où on a conscience qu'on est réputé pour avoir certaines caractéristiques, certaines compétences, certaines possibilités. Et quand on est quelqu'un qui souhaite, au contraire, dépasser ces stéréotypes, quand on essaye de ne pas confirmer ces stéréotypes, en fait, on va se retrouver dans une situation paradoxale qui est « je veux montrer que je ne suis pas comme ça, je veux montrer que ce stéréotype n'est pas vrai ». Et du coup, on va augmenter l'anxiété, et en augmentant l'anxiété, on va diminuer nos performances. Donc c'est ça le principe de menace du stéréotype. Je vais y aller maintenant, voilà. C'est que plus j'ai envie de montrer qu'un stéréotype est faux, plus je vais avoir tendance à être anxieux et plus je vais avoir tendance en fait à avoir une diminution de performance et donc je vais confirmer finalement le stéréotype. En fait, ce que les recherches montrent, c'est que les filles, par exemple, vont souffrir de ça en mathématiques, mais les garçons vont aussi subir cet effet de menace du stéréotype, par exemple dans le langage ou dans l'expression de leurs émotions. La menace du stéréotype, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la situation. Si on change la façon dont la situation est présentée, on annule les effets. D'accord ? Ce qui est très problématique avec la menace du stéréotype, c'est que donc ça diminue effectivement les performances, mais ça va aussi diminuer la motivation et diminuer l'intérêt pour les professions et les activités stéréotypiques, enfin ou non stéréotypiques. Donc si les petites filles, dès l'enfance... où les petits garçons dès l'enfance subissent des effets de menace du stéréotype, ça va très très vite les orienter plutôt vers certaines activités plutôt que d'autres. Donc ils vont plutôt rapidement perdre l'intérêt pour cette activité contre-stéréotypique ou non-stéréotypique. Voilà.
Et renforcer le stéréotype.
Et ça va renforcer le stéréotype. Juste, oui, je voulais vous présenter cette étude par rapport aux femmes et aux mathématiques. Vous savez que les Asiatiques sont réputés pour être très bons en mathématiques. Et donc, du coup, aux États-Unis, ils ont fait ce genre d'études, parce qu'il y a une grosse population Asian American, donc américain d'origine asiatique. Et en fait, si on présente un test de mathématiques comme montrant des différences de genre, comme ayant montré des différences entre les hommes et les femmes asiatiques vont avoir une diminution de performance. En revanche, chez ces femmes-là, si on montre que c'est un test de mathématiques qui est plutôt qui montre plutôt des différences entre les Asiatiques et les Caucasiens ou les Européens, et ben à ce moment-là, ces femmes-là vont avoir une augmentation de leur performance. D'accord ? Donc selon l'identité sociale qu'on va mettre en science, soit femme qui est stéréotypée négativement, soit asiatique qui est stéréotypée positivement, on va avoir une modification de leur niveau de performance. Et la dernière chose par rapport à la menace du stéréotype, c'est ce qu'on appelle stéréotype lift. C'est-à-dire que les garçons, si on parle des mathématiques, les garçons, quand la situation provoque une menace des stéréotypes chez les femmes, chez eux, ça va augmenter leur performance. C'est-à-dire qu'on va avoir une polarisation en fait, des performances dans cette situation de menace du stéréotype, où les filles vont avoir une diminution et les garçons vont avoir une augmentation de performance dans cette situation-là. Alors que si on présente la situation comme étant non-genrée, comme étant non-problématique du coup vis-à-vis du stéréotype féminin, les deux genres vont avoir des performances qui vont être tout à fait similaires.
Merci, c'était complexe. Donc, si vous avez des questions, gardez-les en mémoire, on les prendra après. Alors, on va revenir, on va plutôt avancer et aller sur ce qui explique pourquoi les femmes, en fait, n'occupent pas leur place dans la société. Donc, on dit qu'elles ont un niveau d'études aujourd'hui qui est proche de celui des hommes au niveau des diplômes. Et pourtant, on ne retrouve pas les femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. On ne les retrouve pas dans les postes clés dans les administrations, alors qu'elles ont fait des études, notamment en sciences sociales et humaines. On en est la preuve toutes les trois. Quoique Marie, tu es un peu à cheval, tu es plus scientifique.
Biologie, ça se discute. Voilà. C'est-à-dire que si tu parles aux mathématiciens, je suis vraiment dans les sciences molles.
Très bien. Donc, avant de passer directement aux phénomènes qui sont liés aux organisations, Marie, quand on a préparé, tu m'as rappelé qu'on était des mammifères et que chez les mammifères, il y avait de la hiérarchie.
Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps avec une collègue qui travaillait là-dessus et j'ai trouvé ça passionnant. Les effets, enfin, ce qu'on arrive à observer dans la population sur la hiérarchie. Alors, il y a énormément d'études sur. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le cerveau tout de suite, juste pour vous dire ce que c'est, à quel point c'est fort. C'est que si quelqu'un, par exemple, grille un stop, si cette personne a une voiture qui démontre du pouvoir, quoi, une haute hiérarchie, donc pas la petite Peugeot 206, mais la Audi, je ne sais pas quoi, la grosse voiture, on lui pardonne plus facilement. Et c'est une tendance qu'on a tous en tant qu'espèce, on voit ça chez les autres mammifères non humains. Ceux qui sont dans des positions de hiérarchie ont effectivement des passe-droits, et c'est eux qui gouvernent, versus ceux qui ont des positions en descendant jusqu'au plus bas, qui a les derniers restes du repas après que tout le monde se soit nourri chez les animaux. Et nous, on est pareil. On a exactement les mêmes comportements. Donc, c'est bon de le savoir pour essayer, du coup, de faire quelque chose pour ça. Mais ça explique pourquoi nos politiciens peuvent être avec des énormes dossiers de mauvais comportements, etc. Et que ce soit OK, parce que plus on a du pouvoir et de la hiérarchie, et plus, en fait, tout le monde nous donne un passe-droit. Donc, j'ai trouvé ça assez fascinant qu'on tombe tous dans ce phénomène. Et du coup, effectivement, hommes-femmes tombent dans ce phénomène aussi. C'est-à-dire que il y a des études sympas, en tout cas intéressantes, qui montrent que la hiérarchie est jugée en regardant le visage de quelqu'un. On enlève les cheveux, on met juste vraiment les caractéristiques, un visage dénué d'informations genrées. Eh ben, les visages qui sont à plus forte pommette saillante, arcade sourcilière saillante, en gros des visages plus masculins, sont jugés très rapidement comme étant dominants, donc à haute position, haute statut hiérarchique, et tous les visages plus féminins, plus ronds, comme moins dominants, étant plus de position hiérarchique plus basse. Donc directement, en fait, ça va découler de ça. Une conséquence sur nos comportements qui est que l'homme aura un peu plus de passe-droit, la femme un peu moins de passe-droit quand elle se trompe, quand elle fait ci, ça. Donc ça nous fait penser à beaucoup de choses du quotidien. Et là, je voulais vous montrer une étude qui regarde des visages encore. Donc on demande à des participants à qui on met un casque d'électroencéphalographie. Donc moi je fais ça pendant ma thèse, c'est assez sympa. Donc on voit l'activité électrique du cerveau, on a l'impression de rentrer un peu dedans, c'est chouette. Et on voit quoi ? On voit qu'environ 100 millisecondes après qu'on ait vu le visage, tout de suite on sait dire en fait l'émotion de ce visage. On est super rapide à détecter si la personne est en colère, joyeuse. C'est important pour communiquer. Et puis si la personne a peur, c'est bien de le savoir tout de suite pour fuir et puis survivre nous aussi. Mais très peu de temps après, 200 millisecondes. Donc 200 millisecondes, c'est un cinquième d'une seconde, quoi. Une seconde, c'est 1, 2, d'accord ? Donc un cinquième de ce petit temps, on sait détecter aussi la hiérarchie, quoi, dans cette posture de visage. Donc ça, c'est assez fort, c'est-à-dire qu'on saura, dès qu'on voit quelqu'un, détecter si cette personne est plutôt dominante. C'est un jugement qu'on fait, et donc on va tomber dans des stéréotypes, mais qui tombe en fait assez proche de la réalité, de la vraie vie. Enfin, comme l'a montré Clémentine, tout se recoupe un peu. Et je trouve ça assez bluffant. Dans le cerveau, donc on n'en a pas conscience. Hein, 200 millisecondes, on a conscience de rien. C'est trop tôt pour que moi, Marie, j'ai conscience que je fais cette discrimination dans ma tête. Mais je saurai tout de suite, en regardant tous les visages qui sont là, dans quelle catégorie de dominance ou de soumission je vous place dans la société. Et je saurai, moi, comment je me place par rapport à vous. Et il y a mes comportements derrière vont découler un peu de cette évaluation, comme de l'évaluation 100 millisecondes avant de savoir si vous êtes joyeux, triste, en colère, pour m'ajuster à vous dans nos relations. Donc ça, je trouve ça assez bluffant. Et voilà, donc la question de l'inné de l'acquis, voilà, on n'y répondra pas. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont très ancrées. Parce que là, c'est ce que ça montre, c'est qu'en très très peu de temps, de façon inconsciente, c'est déjà présent cette différence de statut, de hiérarchie, et donc cette différence homme-femme sociale, j'ai envie de dire, de genre, et de tout ce que ça implique socialement derrière. Donc ça fait un peu... c'est bien d'agir, de le savoir. Hein, voilà.
Le savoir permet effectivement d'en prendre conscience, notamment dans un entretien d'embauche. Donc si on n'en a pas conscience, effectivement, ça peut...
Et dans le système de justice, tu vois, en fait, dans le système de justice, on se rend... Je ne sais pas si les juges, les avocats sont formés à ça pour s'il y en a ici, je ne sais pas, est-ce que vous êtes formés à ça, mais pour justement le prendre en compte dans les délibérations, essayer de contrer un peu cet effet naturel qu'on a tous en tant que mammifères, puisque on est des humains et qu'on veut se surpasser notre condition d'animal, ben voilà, ça serait pas mal de prendre ça en compte.
Merci. Et bien maintenant, on va essayer de parler des phénomènes qui sont plutôt organisationnels avec Clémentine. Je vais les citer, puis tu vas peut-être essayer de nous les décrire, et ça nous permettra peut-être aussi de lancer la discussion, parce que là, on est en plein dans les thématiques Lean-In. Donc, plafond de verre, falaise de verre, effet backlash, escalator de verre, reine des abeilles. Au choix, dans l'ordre que tu veux.
Alors, pour commencer, j'avais mis ce petit graphique, ces petites infographies que j'ai trouvées sur l'entrepreneuriat des femmes. Alors déjà, elles sont évidemment beaucoup moins nombreuses que les hommes, puisqu'il y a moins de 40% voilà, des femmes qui créent des entreprises individuelles. Donc il y en a moins. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est que quand elles en créent des entreprises, elles les créent dans quelque chose qui est hyper stéréotypique. Donc surtout tout ce qui est santé, service au ménage. C'est là où elles sont le plus présentes. Elles vont être également dans l'enseignement. Moi, j'ai été étonnée par l'industrie, le fait qu'elles soient aussi présentes dans des entreprises liées à l'industrie. Après, est-ce que l'industrie, c'est par exemple de faire de la couture ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est, je sais pas si ça rentre là-dedans ou pas, mais bref. Donc voilà, en tout cas, ce qui est aussi. Voilà, je voulais juste parler de. Attirer un peu votre attention là-dessus. Alors, le plafond de verre, certainement, peut-être vous connaissez déjà tous, et ça va être de la redite, j'en suis navrée. Qu'est-ce que c'est que le plafond de verre ? Eh bien, c'est justement une métaphore pour indiquer la difficulté des femmes à progresser dans une entreprise, dans une hiérarchie, dans une organisation, et à monter les échelons hiérarchiques, en fait, avec l'idée qu'il y a un moment donné, elles vont avoir la tête qui va être coincé par ce plafond de verre qu'on ne voit pas, mais qui va les empêcher de progresser davantage dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de femmes dans les boards des entreprises, dans les...
Comment ça s'appelle ?
des conseils d'administration, merci, alors qu'elles peuvent atteindre des niveaux assez élevés dans la hiérarchie d'une entreprise, de là à passer au conseil d'administration, il y a quand même justement ce plafond de verre qui fait qu'elles sont assez peu présentes, en tout cas, même si donc les choses s'améliorent. Là, c'est la proportion de cadres, de femmes parmi les cadres dirigeants. On voit qu'en France, on est entre 34 et 30%. Ce qui est quand même pas beaucoup, que dans, voilà, dans le Royaume-Uni, par exemple, Suède, Estonie, Lituanie, Hongrie, etc., il y en a entre 39 et 35%, et que, étonnamment, il y en a plus en Pologne et en Lettonie, mais en tout cas, et il y en a encore moins, par exemple, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, etc. Donc, il y a moins de 50, il y a plus de 50% des femmes, de femmes dans le monde, mais il y en a beaucoup moins que de 50% qui atteignent ces positions de dirigeantes. Ça, c'est une petite illustration pour ce qui se passe dans la science, parce que l'université n'est évidemment pas épargnée hein, par le plafond de verre. C'est-à-dire qu'on va avoir pratiquement... Alors, ça va dépendre des disciplines scientifiques, mais on va avoir autant de femmes que d'hommes qui vont être docteurs de sciences. Il va y avoir presque autant de femmes que d'hommes qui deviennent maîtres de conférences ou chercheurs, par exemple. Par contre, une fois qu'on parle de professeurs des universités ou de directeurs de recherche au CNRS, là, il commence à se faire un vrai gap. Donc, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui vont atteindre ces positions-là.
Alors, les écarts ne se creusent pas, mais en tout cas, tendent à se réduire, mais plus difficilement aujourd'hui que...
Moins vite, ça va moins vite ouais, qu'avant. Ouais. Ouais, donc il y a une réduction effectivement de ces inégalités, mais elles perdurent. Mais voilà.
À l'université comme ailleurs en fait.
Oui.
Et ça se retrouve aussi dans l'écart salarial.
Ça se retrouve dans l'écart salarial. Alors après, encore une fois, ça va être expliqué aussi par le fait que les femmes vont avoir des carrières hachées, qu'elles vont faire plus de temps partiel, etc. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, sauf que du coup, ça veut dire que structurellement, ben, y a une inégalité entre les femmes et les hommes.
Très bien.
Que je continue sur autre chose, sur la falaise de verre, par exemple.
Oui, par exemple.
Ok. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais hier, Elon Musk a enfin quitté Twitter et il a laissé sa place à une femme. Et en fait, ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la falaise de verre. Donc, la falaise de verre, pour vous donner quelques exemples. En 2012, Yahoo était en très très mauvais état et on a nommé Marissa Mayer comme PDG. Theresa May a été nommée première ministre britannique au moment où il fallait négocier le Brexit. Laurence Descartes a obtenu le poste de directrice du Louvre juste après la période du Covid où ça a été absolument désastreux pour la culture. Et Elisabeth Borne a été nommée première ministre sans majorité à l'Assemblée avec un agenda législatif plus que polémique. En fait, tous ces exemples-là, ce sont une illustration de ce qu'on appelle la falaise de verre. La falaise de verre, c'est ce phénomène où, quand les femmes arrivent à dépasser le plafond de verre, eh bien, en réalité, elles vont être mises en haut de cette falaise de verre, c'est-à-dire qu'elles vont être beaucoup plus facilement, elles vont être davantage nommées à des positions très haut placées, des positions hiérarchiques, quand la situation est une situation de crise, quand l'entreprise va mal. Ce qui fait que, du coup, elles ont aussi beaucoup plus de risques d'échouer en tant que dirigeantes, puisque la situation est déjà très périlleuse, elles vont pas forcément réussir à sauver les meubles. Donc, et cette situation-là, en fait, elle est problématique, parce que pourquoi est-ce que les femmes, on leur propose des situations, pourquoi est-ce qu'on leur propose des postes que dans ces situations-là? Alors, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs explications. La première, c'est pour proposer un changement. L'entreprise va mal. Tout ce qu'on a essayé jusqu'à maintenant, ça marche pas. Faisons quelque chose d'un petit peu innovant. Et si on prenait une femme? Elles sont pas comme les hommes, elles sont un peu différentes. Donc ça veut dire que potentiellement, elles vont manager les choses de façon différente. On a cette croyance que les femmes vont être des managers différents des hommes. Ce qui est pas complètement faux, puisque elles sont éduquées pour être un petit peu différentes en termes de comportement. Donc oui, les femmes peuvent avoir des comportements managériaux qui sont différents des comportements managériaux des hommes. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi une deuxième raison potentielle qui est celle-ci beaucoup plus vicieuse, c'est qu'on peut trouver un bouc émissaire en cas d'échec, c'est-à-dire que ce ne sont pas les hommes qui sont responsables de l'échec complet de cette entreprise, c'est elle, c'est cette femme-là. C'est à cause d'elle que ça va.
Parce qu'elle sera pas compétente.
Parce qu'elle n'est pas compétente. Et du coup, on renforce le stéréotype que les femmes sont de mauvaises dirigeantes, parce qu'elle n'a pas réussi à sauver l'entreprise, qui de toute façon était vouée à l'échec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cet effet falaise de verre, il se retrouve aussi au niveau politique. C'est-à-dire qu'on va plus facilement nommer, enfin, les partis politiques en fait, vont plus facilement envoyer des candidates aux élections dans des régions qui sont déjà perdues d'avance. Donc, dans des régions dans lesquelles le parti n'a jamais gagné, on va plus facilement envoyer une femme qu'envoyer un homme. Est-ce que ça va, c'est clair ? Ok. Et la troisième raison, c'est que comme les femmes, on leur propose moins souvent des positions hiérarchiques élevées, et ben elles vont plus facilement l'accepter que les hommes, parce qu'elles n'ont pas d'autres propositions. Voilà, c'est une opportunité. Donc ben elles l'apprennent. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a plein de choses qui nourrissent en fait ce phénomène de falaise de verre.
Effet backlash.
Ok. Donc on a dit que les femmes, elles avaient certains comportements, elles étaient encouragées à avoir certains comportements, et les hommes sont aussi encouragés à avoir certains comportements, certaines caractéristiques. Sauf que par exemple, quand on veut faire de la politique, on ne peut pas être une femme sensible, on ne peut pas être une femme hyper féminine, on ne peut pas être une femme en fait. Pour faire de la politique, il faut être un homme. Donc si on veut grimper les échelons, dépasser le plafond de verre, il faut avoir des comportements qui sont compatibles avec l'image que l'on a d'une personne qui fait de la politique. Donc il faut se comporter de façon plutôt masculine, il faut être sûr de soi, il faut être plutôt avoir du sang-froid, donc il faut gérer ses émotions, garder ses émotions sous contrôle, etc. Donc si les femmes... en fait, le problème, c'est que du coup, si les femmes adoptent des comportements qui sont typiquement masculins, elles vont pouvoir accéder à certains échelons de l'entreprise ou au niveau politique, sauf qu'on ne va pas les aimer. Donc, le problème, c'est qu'une femme qui a des comportements typiquement masculins, on ne va pas non plus la choisir parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'elle n'est pas féminine, parce que justement, elle est contre-stéréotypique. Donc, l'effet backlash, c'est... On peut adopter des comportements qui sont attendus dans l'entreprise, les comportements qu'on attend d'un manager, sauf que si on est contre-stéréotypique, on va être jugé négativement. Et on va du coup être moins facilement choisi parce que cette personne-là, on l'aime pas. Ce qui est le cas aussi pour les hommes. Hein, pour toutes les personnes qui ont des comportements contre-stéréotypiques vont être jugées négativement parce qu'elles ont des comportements contre-stéréotypiques. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire de cet effet backlash. Donc on est puni parce qu'on n'est pas stéréotypique. Sauf que pour progresser dans l'entreprise, il faut être contre-stéréotypique. En fait, il faut être stéréotypique de l'autre genre. D'accord ? Et c'est ça. C'est ça, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, c'est cette difficulté, c'est de dépasser cet effet backlash.